Alors aujourd'hui, nous allons méditer le mystère de l'Église. Nous allons essayer de découvrir dans la foi ce que veut dire « Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique ». Bien souvent, on entend dire autour de nous « Je crois en Dieu, mais pas en l'Église. Je crois en Jésus-Christ, mais alors l'Église, non ». Et les gens, ils ont peut-être plein de raisons pour cela, sans les condamner, sans les juger. Certains pensent que, par exemple, l'Église aurait pu falsifier le message de Jésus, le déformer à son compte. L'Église aurait peut-être arrangé les textes bibliques à son compte. Alors, ce qui est important, c'est de retrouver la parole de Dieu, mais l'Église, peut-être maintiendrait une domination sur les gens, en gardant son pouvoir d'église et de pression sur les croyants, et qu'en fait, l'essentiel, ça serait ce pouvoir qu'elle garderait. Voilà. Et en gros, ça serait bien de réformer l'église, quitte à enlever l'église, pour retrouver un vrai christianisme plus pur, plus vrai, plus authentique. On entend ça souvent, des fois. On entend aussi que l'église, elle est autoritaire, hiérarchique, et qu'elle n'a pas été voulue comme ça par le Christ. Que ça, c'est l'invention des hommes. On entend aussi parfois, et c'est aussi des raisons aussi pourquoi des personnes n'accueillent pas forcément l'Église dans leur cheminement de foi, c'est « si Dieu existe, il est partout, pourquoi l'Église ? Pourquoi on a besoin de l'Église ? Et pourquoi la prétention de l'Église catholique, par exemple, d'être la vérité, le lieu de la vérité ?» Non, non, Jésus a parlé peut-être, mais partout, et puis voilà. Ou encore, toutes les questions de morale. Que dit l'Église ? Et là, ça gêne beaucoup nos contemporains. Alors du coup, non, Jésus, oui, mais libre à moi de choisir les questions de morale. Donc libre à moi aussi de me prendre ma liberté vis-à-vis de l'Église. Ou alors même, les questions de positionnement de l'Église. Voilà. Bah, on peut dire, il y a plein d'exemples. Mais on va prendre un exemple sur, par exemple, la place des hommes, la place des femmes, qui est différent, complémentaire, mais qui n'est pas pareil, pas comme généralement la société le propose. Et là encore, on peut croire en Dieu, en Jésus-Christ, mais l'Église semble bien arriérée pour beaucoup, en retard. Tous ces éléments, et il y en a peut-être beaucoup d'autres, font penser à nos contemporains qu'il faut dissocier, pour certains, la tentation de dissocier entre Dieu, Jésus-Christ est Dieu, voilà, c'est pour ceux qui ont découvert que Jésus-Christ est Dieu, et l'Église. Alors pour nous qui croyons en l'Église, qui confessons l'Église dans notre credo, il est bon de comprendre en quoi l'Église est importante et quelque part est un élément constitutif de notre foi. Que quelque part on n'est pas pleinement chrétien sans l'Église. Et que l'Église, elle a été voulue par Dieu, et non pas inventé par les hommes, que ça nous plaise ou non, qu'elle ait des défauts ou non, elle est voulue par Dieu. Tout ça, il est bon de le découvrir, et donc on va faire un petit cheminement à travers l'Écriture, et puis à travers les conceptions de la foi de l'Église pour découvrir cela. Tout d'abord, il faut se dire que le mot « Église » vient du grec « ecclésia », qui veut dire « convocation ». Ça veut dire que c'est Dieu qui parle à travers sa parole et qui convoque l'être humain, tous les êtres humains, pour en faire un peuple, pour le rassembler auprès de lui. Cette convocation, c'est l'action de l'Église. Dieu convoque et crée l'Église. Voilà, c'est ce que veut dire le mot ecclésia, Église. Et on voit que cette convocation a commencé bien avant l'Église, elle a commencé dès l'Ancien Testament. Dieu se révèle à l'homme. De manière particulière, il se révèle à Abraham. Et à Abraham, il lui promet une génération nombreuse, des descendants plus nombreux que les étoiles, dans le livre de la Genèse. Et ça, quelque part, c'est une promesse quelque part par anticipation de ce qu'est l'Église. Le mystère où les gens seront réunis autour de la connaissance du vrai Dieu. Donc on voit, il y a une convocation parce que Dieu parle, Abraham écoute, et Dieu promet un rassemblement autour de lui. Et ce rassemblement commence déjà dans l'Ancien Testament avec Israël, qui reçoit la parole de Dieu, qui est convoqué par la parole de Dieu, et Israël, petit à petit, le troupeau s'agrandit, le peuple d'Israël, et fait un cheminement autour de Dieu. Sans arrêt, les prophètes parlent au nom de Dieu et convoquent le peuple. De même que les patriarches, ils seront comme des bergers pour le troupeau. Donc on a cette image de convocation dans l'Église. On a aussi cette image dans l'Ancien Testament, on en a beaucoup d'images, mais on a aussi l'image d'un troupeau qui suit un pasteur. On peut reprendre l'exemple du bon berger, le psaume du bon berger, psaume 22-23, où on a cette image d'un troupeau qui suit un pasteur, qui suit Dieu. Voilà. C'est une image de l'Église. On a l'image de la vigne. On a dans les prophètes l'image de la vigne, qui sera réutilisée aussi par le Christ. En Jean chapitre 15, la vigne étant le Christ, mais aussi l'Église. Et Benoît XVI reprendra cette parole quand il deviendra pape, de travailler un humble serviteur qui travailla à la vigne du Seigneur, pour l'Église. Voilà. On a d'autres images, on parle de la Jérusalem. Jérusalem, c'est bien une ville, mais aussi la Jérusalem céleste, c'est le lieu, la cité sainte, on adore Dieu. Et on verra que cette image-là est reprise dans le livre de l'Apocalypse. Donc on voit que Dieu, quelque part, veut rassembler, guider, comme un berger, en convoquant, en faisant l'Église. C'est déjà dans l'Ancien Testament. Dieu veut que les hommes le connaissent, et ne le connaissent pas simplement de manière solitaire, mais ensemble. On a ce processus toujours de rassemblement, de convocation et de guide dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, le Christ continue à parler. Il est la parole de Dieu. Et il va convoquer. Le fait qu'il adresse aux disciples une invitation à le suivre, nous retrouvons ça en Jean chapitre 1, verset 35 et suivant. Et, venez, suivez-moi. Venez, vous verrez. Le Christ convoque. Et les disciples le suivent. C'est déjà une démarche de l'Église, quelque chose qui se prépare de l'Église. Le Christ, en les convoquant, va les enseigner. Voilà. Mais aussi, on retrouve cette idée de l'Église, comme diraient les théologiens, Marie, première Église. On a déjà, dans l'Annonciation, dans l'accueil de la Vierge Marie, du Verbe de Dieu fait chair, on a déjà le mystère de l'Église, au sens fort du terme. Au sens chrétien, on voit Dieu qui s'incarne dans le corps d'une vierge, la créature accueille son créateur, c'est déjà le mystère de l'Église, voilà. Caché dans la Sainte Famille, mais c'est déjà le mystère de l'Église. Ce mystère de l'Église, Jésus ne va pas en parler comme ça, mais il va le dire un jour à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Donc, il y a un projet de Jésus, de faire l'Église. Voilà. Et plus tard, nous verrons que le Concile Vatican II rappellera que Dieu a voulu l'Église en lui donnant une structure, une manière d'être. Et on voit que Jésus, il en parle à Pierre, et qu'il convoque. Il fait le même processus que lui-même faisait avant de s'incarner, en convoquant le peuple d'Israël. Il convoque par sa parole, à l'appel à le suivre, à agglutiner un troupeau, et petit à petit, il le structure en prenant parmi les disciples les 12 qui vont devenir des apôtres, et parmi un précis, il l'appelle Simon, qui va devenir Képhas, ça veut dire Pierre, qui sera celui qui parlera au nom des 12, qui édifiera la foi des autres, et sera la pierre sur laquelle sera fondée l'Église. Donc on voit que Jésus donne une place particulière à Pierre. Il structure des éléments pour son Église. L'évangile de Luc, l'évangéliste Luc, on sait qu'il a écrit l'évangile, son évangile, mais il a aussi écrit la suite de son évangile qui est les Actes des Apôtres. Et les Actes des Apôtres, on dit souvent, c'est l'évangile du Saint-Esprit, parce qu'il y a beaucoup l'action du Saint-Esprit dans les Actes des Apôtres. Mais on pourrait dire aussi, c'est l'évangile de l'Église. On voit le mystère de l'Église se déployer. On voit le mystère de l'Église parce qu'on a le récit de la Pentecôte, dès le chapitre 2 des Actes des Apôtres. À la Pentecôte, ils reçoivent une force particulière et ils sont envoyés en mission et Pierre va parler à Jérusalem devant les Juifs en proclamant la foi chrétienne, le kérigme. Il envoie le porte-parole des apôtres, choisi par Jésus, qui dit que Jésus est mort et ressuscité, qu'il est venu pour nous sauver de nos péchés. Les Juifs l'entendent et 3000 Juifs, ce jour-là, se convertissent. Et il nous est dit qu'ils se sont intégrés à la communauté des croyants, qu'elle avait grandi ce jour-là. Donc le mystère de l'Église grandit. Et nous avons aussi, en les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, ce qui se vivait du mystère de l'Église dans les premières communautés chrétiennes. Je le lis parce que je trouve que ce verset est plein de sens pour nous encore aujourd'hui. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte gagnait tout le monde, beaucoup de prodiges et de signes s'accomplissaient par les apôtres, tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis et mettaient tout en commun. Unanimes, ils se rendaient chaque jour assidûment au temple, ils rompaient le pain à domicile, prenant leur nourriture dans l'allégresse et la simplicité de cœur. Donc on a des éléments de l'activité de l'Église naissante. Écoutez l'enseignement des apôtres, qui sont là pour structurer l'Église. La communion fraternelle, la fraction du pain qui en fait dans les Actes des Apôtres veut dire l'Eucharistie, c'est ça la fraction du pain, et une prière. Voilà, on a des piliers là qu'on a essayé de, c'est la parole qu'on a reprise pour les fraternités, pour faire vivre quelque chose du mystère de l'Église. On a le mystère là de l'Église. Et on voit que ce mystère de l'Église, les apôtres le déploient. Et puis après, Paul va s'intégrer aux apôtres quand il aura fait l'expérience du Christ ressuscité. Et il fondera l'Église à d'autres endroits, dans d'autres communautés, à Rome, dans différents endroits, où il écrira des lettres aux Philippiens, aux Thessaloniciens, qui eux-mêmes sont des églises naissantes. Donc on voit que le ministère de l'Église va se répandre bien au-delà de la Galilée, bien au-delà de Jérusalem, jusqu'à aller partout. À la mort de l'apôtre de Paul et Pierre, déjà la Méditerranée, il y a l'Église qui est répandue. Le mystère de l'Église, des croyants. Dans le livre de l'Apocalypse, à la dernière page, enfin, nous avons beaucoup de choses sur le mystère de l'Église. Dans l'Apocalypse, différentes communautés qui sont ardentes ou qui sont tièdes. Il nous est parlé aussi des éléments du ciel. On va voir ça de l'Église du ciel. Des combats que devra mener l'Église aussi. Et au dernier chapitre, au verset 22, il est dit « L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif « Vienne ». Que celui qui le veut reçoive de l'eau vive gratuitement. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». On va voir que cet Esprit Saint et cette Épouse qui disent « Viens Jésus-Christ », c'est le mystère de l'Église. Donc on voit que Dieu, dès le départ, qui parle à Abraham, donc il parle, il convoque Abraham, et derrière lui, c'est une multitude de croyants qui vont croire en la foi d'Abraham et des descendants des patriarches, qui va créer un troupeau, qui ce troupeau sera guidé avec des patriarches et des prophètes, comme Dieu guide son peuple, comme un bon berger, qui sera comme sa vigne, et sa cité à lui. Ce troupeau, qui un jour le Christ viendra lui-même dans ce troupeau pour, j'allais dire, déployer la connaissance de Dieu de manière totale et puis structurer ce troupeau avec Pierre, les apôtres, des enseignements et qui même ce troupeau, dans la motion du Saint-Esprit, va grandir dans les Actes des apôtres, va se déployer dans les récits de Paul, de Jean, de Jacques, de Jude, de Tite, qui sont, voilà, ceux qui ont écrit les lettres apostoliques après les évangiles. Jusque dans le livre de l'Apocalypse, on voit le mystère de l'Église se déployait. Donc ce mystère de l'Église, il est dans l'Écriture. Il est dans l'Écriture. Donc il n'a pas été inventé après. Et souvent on nous dit, oui, mais l'Église, elle a trafiqué les Écritures. Alors il faut nous rappeler qu'avant l'Écriture, le mystère de l'Église existe. Et l'Église existait avant l'Écriture. Évidemment, la parole de Dieu, c'est elle qui a créé le cosmos, l'univers. Dieu a créé par sa parole. Donc la parole est première, on est bien d'accord. Mais l'Écriture écrite, elle vient en son temps. Il a fallu des rédacteurs. Or, s'il y a eu des rédacteurs, avant il y a eu des croyants qui ont prié. Et ces croyants n'étaient pas seuls. Ils vivaient dans des groupes, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Et donc on voit que le mystère de l'Église préexiste à l'Écriture, à la rédaction des Saintes Écritures. Donc quand on nous dit l'Église a trafiqué les textes, par exemple de l'Évangile ou du Nouveau Testament, en réalité ce qu'il faut dire, et c'est vrai historiquement, l'Église existait avant que les textes soient écrits, puisqu'ils se le transmettaient oralement. Et qu'en son temps, ils les ont écrits. Donc l'Église n'a pas récupéré des textes, les a bidouillés, mais c'est elle qui les a écrits, parce qu'elle existait avant l'Écriture écrite. C'est très important de dire ça. Donc on comprend à ce moment-là qu'une juste interprétation de la parole de Dieu, qui est pour nous la tradition et les Saintes Écritures, se fait dans le mystère de l'Église. Et que sortir les Saintes Écritures, j'allais dire de son jus ambiant, c'est les dénaturer et ne plus les comprendre totalement. Vous comprenez? Donc le mystère de l'Église est très important pour nous. Ça nous dit quelque chose déjà du fait qu'on ne peut pas comprendre, si on veut suivre l'Évangile, comprendre pleinement Jésus en le faisant sortir de la compréhension ecclésiale de l'Église. Parce que c'est bien l'Église qui a écrit les Évangiles. Vous voyez? Ça, c'est une première chose. Nous disons que l'Église est un mystère, c'est-à-dire quelque chose qui nous dépasse intellectuellement, qui est au-delà de la compréhension humaine, c'est vrai. Et en même temps, nous devons utiliser toute notre foi et notre intelligence pour essayer de la comprendre. Cette réflexion sur le mystère de l'Église s'est vraiment déployée au XXe siècle, en particulier avec le Concile Vatican II, qui, on peut dire, a été un concile ecclésial du mystère de l'Église. Une constitution en particulier, la constitution Lumen Gentium, lumière des peuples, en parlant du Christ lumière des peuples, est une constitution qui parle du mystère de l'Église. Voilà, on va en parler. Donc c'est un mystère, et qui est déjà inscrit dans le credo. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Et elle a sa place, elle n'est pas première. Ce qui est premier dans le credo, c'est la confession en Dieu, qui est déclinée Père, Fils et Saint-Esprit, le Dieu Trinité. Beaucoup est déployé de choses sur la personne de Jésus, parce qu'il est Dieu de toute éternité, qu'il s'est incarné, que dans notre credo nous est dit en condensé les événements de sa vie, mort et ressuscité, né de la Vierge Marie, etc., crucifié sous Ponce Pilate. Et après le Saint-Esprit, nous est dit en quoi nous croyons sur l'Église. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur, qui donne la vie, procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils reçoit même adoration et même gloire, il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique, apostolique. Catholique et apostolique. Alors ça, on voit qu'il y a un lien particulier, on va voir, entre l'Église et le Saint-Esprit. En fait, il y a un lien aussi particulier entre l'Église et Jésus-Christ. Et l'Église et Dieu le Père. Mais prenons les mots dans l'ordre. L'Église, on dit qu'elle est une. Pourquoi on dit cela? On dit qu'elle est une, nous enseigne l'Église, parce qu'elle trouve sa source en Dieu. Quand Jésus, au Jean chapitre 17, dira « Père, qu'il soit un comme nous sommes un », Jésus veut l'unité du genre humain. Jésus veut l'unité du genre humain dans la connaissance du vrai Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Et ça passe par lui qui est la porte. Voilà. Et donc Jésus veut cette unité, et l'Église est un mystère d'unité. Et le mystère d'unité voulu par Jésus-Christ, au-delà des divisions historiques, au-delà des divisions entre les croyants chrétiens. Elle est un mystère d'unité. Pourquoi ? Parce qu'elle est une de par sa source, nous dit l'Église. C'est-à-dire que sa source est le Dieu unique, qui est Trinité, et qui a un mystère d'unité dans la Trinité. Et comme on vient du mystère de la Trinité, l'Église vient du mystère de la Trinité, elle est voulue par la Trinité entière, elle est une, mystère d'unité qui vient de Dieu. L'Église est une de par son fondateur aussi. On n'a eu qu'un fondateur, c'est Jésus-Christ, on n'en a pas d'autre. C'est le Christ qui a voulu l'Église. Le Concile Vatican II dit cela, dans une autre constitution, Gaudium et Spes, le Fils incarné en personne, donc Jésus-Christ, a réconcilié tous les hommes avec Dieu par sa croix, rétablissant l'unité de tout le genre, de tous, en un seul peuple et un seul corps. L'unité de tous en un seul peuple et un seul corps. L'unité, mystère d'unité, à nouveau. Et l'unité de l'Église, elle est une, parce qu'elle a une seule âme. Elle a une seule âme qui est le Saint-Esprit. Et j'ai déjà commencé à en parler quand j'ai parlé de l'Apocalypse, ce dernier verset au chapitre 22, qui dit « L'Esprit et l'Épouse disent « Viens Seigneur Jésus ». En fait, là on voit l'âme de l'Église qui est le Saint-Esprit. Elle en a une seule âme. Et dans les Actes des Apôtres, on voit que les premiers chrétiens étaient, comme je l'ai vu dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, étaient fidèles à la prière, assidus à l'enseignement des apôtres. Et un peu plus loin, si je me souviens bien, c'est au chapitre 4 ou au chapitre 5, on nous a dit qu'ils étaient un seul cœur et une seule âme. Non pas qu'ils n'avaient pas des âmes personnelles chacun, bien sûr, mais celui qui faisait l'unité entre eux, c'est le Saint-Esprit. Donc il y a un mystère d'unité. Ça, c'est important. Ce mystère d'unité, il est aussi visible de manière, j'allais dire, structurée par le Seigneur. Ce mystère d'unité, qui est voulu par Dieu, qui est unité, on a dit Trinité, qui est voulu par un seul fondateur, Jésus-Christ, qui a une seule âme, qui est le Saint-Esprit, qui l'habite et qui fait la communion entre les croyants, ce mystère d'unité, qui est l'Église une, quelque part, ça a été structuré par le Seigneur. Comment ça a été structuré ? Tout d'abord, parce qu'il y a un seul credo. Il y a une seule foi. Nous avons tous la même foi. Quand nous nous préparons au baptême, nous, à un moment donné, nous allons recevoir le credo et le rendre. Ce qu'on appelle la reddition du credo, du symbole des apôtres. La reddition du symbole. C'est la seule foi, une seule foi. Cette foi-là, elle est commune à chacun d'entre nous, c'est ce qui fait notre unité. Et vous voyez, quand la foi n'est plus commune, il y a division de l'Église. Donc le credo, c'est des éléments, pas que formels, c'est spirituel, c'est la foi de l'Église, mais aussi c'est formalisé dans des concepts dogmatiques qui fait que ça structure l'Église. La deuxième chose, c'est le culte. Le culte eucharistique et les sacrements. Nous avons les mêmes sacrements, la même célébration eucharistique. Et nous voyons que quand nous avons des divisions au sein de l'Église, et historiquement il y en a eu, puisque nous avons des divisions avec nos frères orthodoxes, et de manière plus profonde avec nos frères protestants, par exemple, eh bien nous voyons que nous ne pouvons pas célébrer l'Eucharistie ensemble. Donc on voit que le lien du culte, ensemble, dit quelque chose de l'unité. La non-possibilité de vivre le culte ensemble dit quelque chose de la division. Donc on voit le credo comme structuration de l'unité, le culte, les sacrements. Et dans des confessions, par exemple protestantes, il y a une atrophie des sacrements. Il y a des sacrements qui sont en moins par rapport aux catholiques et aux orthodoxes. Ça aussi, c'est un problème pour l'unité de l'Église. Et puis enfin, nous avons la succession apostolique qui assure l'organisation de l'Église. Et on va voir ça qui est plus que ça, qui aide au mystère de l'unité. L'évêque est celui qui assure l'unité de l'Église dans l'Église particulière qui est un diocèse. Et l'évêque de Rome est l'évêque qui préside à l'unité, qui a reçu ce don-là en tant que successeur de Pierre, qui fait l'office de Pierre, qui préside à toutes les autres églises particulières pour assurer l'unité de l'Église universelle. Voyez, donc il y a un mystère d'unité qui s'emploie structurellement par le credo, le culte, les sacrements et le lien apostolique, c'est-à-dire les successeurs des apôtres, pour nous, les évêques et le pape. Tout ça fait l'unité de l'Église et est voulu par Dieu. L'Église est sainte. Alors là, on a plus de mal, une, sainte, j'en suis à sainte, parce qu'on se dit, oui, mais quand même, hein, il y a eu des papes qui n'ont pas fait des très belles choses dans l'histoire de l'Église, et c'est vrai. Il y a eu des prêtres qui n'ont pas fait des très belles choses dans l'histoire de l'Église, et c'est vrai, et puis ça se fait encore. Puis il y a des chrétiens, ils vont à la messe, mais c'est un peu hypocrite, ils ne changent pas dans leur vie, voilà. L'Église, elle n'est pas très sainte. Et puis l'Église, elle a des croisades sur le dos, elle a des inquisitions sur le dos, elle a des incompréhensions sur le dos, elle est moralisatrice, et patati patata. Et puis encore, on peut démultiplier. Elle est quand même sainte. En fait, comme dirait un grand théologien, le cardinal Journet, un grand théologien de l'Église, l'Église est sainte, mais composée de pécheurs. De fait, il y a en son sein des pécheurs. Mais ça ne veut pas dire que l'Église n'est pas capable de donner la sainteté. Elle est capable de donner la sainteté parce que la sainteté ne repose pas d'abord sur ses membres. Elle repose sur le fait que le Seigneur se serve de l'Église pour sanctifier les hommes à travers le canal de la grâce qui sont de manière éminente les sacrements, mais pas que. Et c'est pour ça que, par exemple, des pères de l'Église, si je me souviens bien, c'est saint Augustin. Il a eu des débats en son temps théologique et on lui disait, mais oui, mais ce prêtre, il est pécheur. Donc en gros, les sacrements sont faux. Et on a réfléchi et au bout d'un moment, je crois que c'est bien lui, Augustin, docteur de l'Église, qui dira, ben en fait, qu'il soit pécheur ou pas, ça agit. Ça agit, il y a vraiment la messe. Parce que la sainteté de Dieu qui passe à travers le ministre de l'Église, le prêtre, n'est pas liée à sa sainteté personnelle. C'est Dieu qui a choisi, c'est Dieu qui agit. Voilà. Et ça, c'est important. On peut se dire personnellement, quand Jésus baptise, c'est Jésus qui baptise. Quand Judas baptise, c'est aussi Jésus qui baptise. Parce qu'il a choisi pour baptiser, donc c'est lui qui fait. Donc on voit bien là que la sainteté de l'Église passe même si les membres ne sont pas saints, un peu, beaucoup ou pas du tout. Vous voyez, ça marche. C'est un mystère de sainteté parce que Dieu s'est uni l'Église à lui. Jésus s'est uni l'Église à lui, c'est son épouse et il s'en sert. Je m'arrête un peu sur ce mot d'épouse, on va en reparler. Mais vous voyez, le mystère de l'épouse, c'est celle qui se donne à son époux. Et l'époux donne tout à son épouse. Nous trouvons ce mystère qui est dit pour l'homme et la femme et que Paul le compare au mystère de l'Église. C'est très intéressant. Vous irez voir dans le livre, l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, Paul parle du rapport entre l'homme et la femme comme du rapport du Christ et de l'Église. Que quelque part le Christ a aimé l'Église comme un époux et s'est donné pour elle, s'est livré pour elle. Et on retrouve cette idée d'épouse déjà dans l'Évangile et dans l'Apocalypse. Puisque dans l'Évangile, par exemple, en Jean chapitre 3, Jean-Baptiste, qui baptise, un baptême de conversion qui prépare le baptême dans le Saint-Esprit. Ses disciples disent, mais Jésus baptise plus que toi. Jean-Baptiste dira, un homme ne peut rien s'attribuer sauf ce qu'il reçoit du ciel. Moi je ne suis pas le Messie, moi je suis que l'ami de l'époux. Quant à l'épouse, elle appartient à l'époux. Quand il dit ça, Jean-Baptiste, il a conscience de parler du troupeau, qui est l'épouse, l'Église naissante, qui appartient à l'époux, à Jésus. Et Paul redira cela dans les Éphésiens, chapitre 5. Et on retrouve ce mystère de l'épouse qui appartient à Dieu, qui est l'Église, dans l'Apocalypse, chapitre 22. L'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Donc l'épouse, c'est celle qui appartient à son Seigneur, l'Église. Elle aime son époux parce qu'elle est habitée d'une âme qui est le Saint-Esprit, qui l'unifie et qui l'attire sans arrêt à son époux, qui la fait tendre vers lui et demande à son époux de venir. Amen, viens Seigneur Jésus. Et nous redisons ça dans la célébration eucharistique. Quand nous disons, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. C'est comme si nous disions, Amen, viens Seigneur Jésus. C'est comme si l'épouse parlait au Christ, époux, Amen, viens. Donc on voit que le Christ a voulu se rendre l'épouse sainte et immaculée, nous dit l'Écriture. Il a voulu se la rendre sainte et immaculée. Donc le Christ veut véritablement sanctifier son épouse et lui a donné des moyens qui sont les sacrements, mais pas que. La foi, la charité surnaturelle, le credo, la constitution apostolique, sa parole, le témoignage, pour sanctifier son Église. Donc elle a un mystère de sainteté au-delà même de, j'allais dire, qu'elle soit composée de pécheurs. Et à la rigueur, c'est bien qu'elle soit composée de pécheurs, parce que ça prouve que l'Église n'est pas une œuvre humaine. On a dit qu'un jour, un grand dirigeant dans l'histoire voulait un peu dégommer l'Église. Et un cardinal lui aurait dit « Vous n'y arriverez pas, on a tous essayé, on n'y est pas arrivé nous-mêmes. » Sous-entendu, ben, on a beau essayer de faire des erreurs et tout, ben, ça ne marche pas, l'Église continue. Parce que ce n'est pas une création humaine, c'est une création de Dieu. Donc Dieu, quand il veut, ça tient. Voilà, c'est important. Et donc c'est pas mal que quelque part l'Église, même si des fois c'est un contre-témoignage, soit composée de pécheurs et de pauvres personnes. Parce que ça prouve, comme dit l'Écriture, que nous transportons un trésor dans des vases d'argile, que nous sommes des pauvres et que ce mystère d'unité, de présence de Dieu, d'épousailles, de peuple guidé, d'unité, il nous dépasse complètement. Et une sainteté qui nous dépasse complètement. À nous, après, de correspondre à la sainteté. Si Dieu nous a mis dans l'Église, et ce qu'il dit déjà dans le livre des Lévitiques, et qu'il redit par exemple dans le livre, la première épître de saint Pierre, « Soyez saints, car je suis saint ». Si le saint, qui est Dieu, donne les moyens de sainteté, c'est pour que les membres pécheurs deviennent des saints. Et à ce moment-là, ça rayonnera encore plus. Et on pourra dire, voyez comme il s'aime. Et à ce moment-là, on reconnaîtra que nous sommes des disciples du Christ, nous dit Jésus. Donc il y a un rayonnement à faire. Et nous avons notre place. L'Église est une sainte, catholique. Elle est catholique, pourquoi? Parce qu'elle a deux dimensions dans catholique. Le mot catholique veut dire universel. Catholon, du grec, qui veut dire universel. Et veut dire aussi intégralité. C'est-à-dire rien ne manque à l'Église et en même temps elle est tendue vers la totalité. Catholique universel, on voit que déjà dans l'Église, elle ne se renferme pas sur elle-même. Une Église, comme dirait le pape, qui se renfermerait sur elle-même, est une Église accidentée, malade. Il a raison, le Saint-Père, de souligner ce point-là, le pape François. Parce qu'effectivement, l'Église tend vers l'universalité, vers l'ouverture. Pourquoi? Parce qu'elle est catholique, c'est-à-dire qu'elle est sans arrêt envoyée vers les autres en mission. Et on voit que ce mystère commence avec le Christ, qui dit, par exemple, en finale de Matthieu, Matthieu 28, « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, allez de toutes les nations, faites des disciples. » Et c'est ce qu'on va retrouver dans les Actes des Apôtres, ça commence à Jérusalem et ça va s'agrandir, Paul, etc. Mystère de la catholicité. Et l'Église croit que toutes les cultures peuvent s'intégrer dans son mystère. Que l'Église, quelque part, va sauvegarder tout ce qu'il y a de bon dans toutes les cultures des hommes. Parce que ça vient de la bonté du Créateur et ça peut même être des préparations à l'Évangile. Donc tout ce qui est bon est intégré dans le mystère de l'Église. On le reçoit et cela nous enrichit. Cela ne dénature pas l'Église. Il y a différentes formes de rites, parce qu'il y a différentes traditions culturelles qui peuvent être intégrées dans l'Église. Et en même temps, l'Église, qui transmet le Christ, la connaissance du Christ, de l'Évangile, purifie les cultures. C'est-à-dire que tout ce qui est détourné ou erroné sur la connaissance du vrai Dieu, sur les vraies mœurs de l'homme, sur la dignité de la personne humaine, l'Église, quelque part, le redresse. Elle intègre toute la richesse de l'homme, qui est vrai, et elle redresse ce qui est courbé. Mystère de catholicité qui s'étend de là toutes les cultures. C'est très fort. Donc ça, c'est la catholicité de l'Église. Donc une très grande ouverture pour une très grande proposition de la foi. Et en même temps, cette Église, elle est, on dirait, on l'emploie moins ce terme, et c'est vrai, ça veut dire aussi ça, catholique, selon l'intégralité. Pourquoi ? parce qu'elle a l'intégralité des moyens de salut. Et c'est vraiment l'Église catholique qui est vraiment catholique au sens fort de ce terme. Et c'est quoi l'intégralité des moyens de salut? C'est le credo, la vie sacramentelle intégrale, pas deux, trois sacrements, mais les sept sacrements, le ministère ordonné, la succession apostolique. De siècle en siècle, de manière ininterrompue, il y a eu des ordinations de prêtres, d'évêques. Ce qui fait qu'on peut dire véritablement qu'aujourd'hui, nos évêques, notre pape, descendent par la transmission de l'imposition des mains et du Saint-Esprit des apôtres. Et s'il y avait eu une coupure, la succession apostolique aurait été interrompue dans le temps et par la suite les sacrements n'auraient pas été valides, n'auraient pas été vrais. Là, le pouvoir spirituel s'est toujours transmis parce qu'il y a une intégralité qui a été transmise. Donc elle est catholique. Et puis aussi parce que nous avons le pape et que le pape, c'est un mystère d'unité pour tous les catholiques. Et que plus nous nous éloignons du pape, plus nous risquons de quelque part déformer la foi. Et nous voyons dans l'Église, même quand les papes ont été pécheurs, jamais les papes ne se sont trompés en termes, même si eux-mêmes étaient des contre-témoignages, pécheurs, jamais les papes dans leur fonction ne se sont trompés dans l'enseignement de la foi et dans l'enseignement des mœurs. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas d'eux. C'est, comme dirait le Concile Vatican I, une infaillibilité pontificale. Le pape ne peut pas se tromper à ce moment-là quand il parle au nom de l'Église parce qu'il n'est pas un surhomme, mais il reçoit le pouvoir qu'a reçu Pierre d'édifier ses frères. Ce n'est pas le pape qui est un surhomme. Il n'est pas un surhomme, c'est un pécheur comme les autres. Mais Dieu a donné au pape le pouvoir d'infaillibilité. Il l'a donné aussi, comme dira le Concile Vatican II, quand les évêques sont réunis autour du pape, cette infaillibilité, et elle s'exerce dans les conciles. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Dieu ne peut pas nous tromper. Donc on a tous les moyens de salut pour avancer. Vie sacramentelle, le même credo, la succession apostolique, le pape. Mystère d'intégralité des moyens de salut. Vous voyez ? Et bien cette catholicité au sens fort, elle est dans l'Église catholique. Elle est un petit peu amoindrie dans l'Église orthodoxe et dans les communautés ecclésiales protestantes. Vous voyez ? Il y a cette catholicité au sens fort du terme. Une, sainte, catholique. Apostolique. Pourquoi ? Parce que l'Église repose sur la foi des apôtres. La foi des apôtres, pour nous, est comme une norme dans notre foi. C'est la valeur sûre. Le Seigneur a donné la foi à beaucoup de gens quand il a parlé du Père, quand il a parlé de l'Esprit-Saint, quand il a guéri, quand il a expulsé les démons. Mais le Seigneur a constitué 12 personnes, dont Judas, qui le reniera. Et alors les apôtres choisiront un autre apôtre parmi eux, a constitué 12, les 12, qui sont ces apôtres sur lesquels est basée la foi. C'est-à-dire que leur témoignage de manière particulière est le socle de notre foi. C'est eux qui sont constitués témoins, nous dira l'Écriture, de la résurrection du Christ. C'est-à-dire qu'ils ont vu vraiment le Christ. Ils l'ont touché, vu, mort et ressuscité. Ils ont entendu son enseignement et ils ont été choisis par Jésus pour édifier leurs frères dans la foi. C'est notre foi repose sur la foi des apôtres, et d'une manière particulière encore, sur le porte-parole des apôtres qui est Pierre. C'est la foi apostolique. L'Église est apostolique. Une sainte catholique et apostolique. Donc on voit, c'est pas une Église qui a une foi qui aurait été, j'allais dire, inventée il y a un siècle, ou il y a un demi-siècle, ou il y a 200-300 ans. Non, c'est la même foi qui vient des apôtres. C'est la même foi. Les apôtres ont cru cette foi et cette foi a été transmise dans toute l'Église. Et bien sûr, dans le temps, la formulation de la foi de l'Église s'est approfondie. On a inventé le concept de Trinité, d'Immaculée Conception, etc., qui ne sont pas dans l'Écriture. Mais c'est la même foi que la foi des apôtres. Parce que c'est la foi apostolique et que l'Église est une, sainte, catholique et apostolique. J'ai dit que l'Église était un mystère. Nous voyons qu'elle est voulue par Dieu, qu'elle est soutenue par Dieu, qu'elle a été constituée par Dieu, qu'elle a été organisée par Dieu. Donc elle relève quelque chose de Dieu, mystère d'unité, de sainteté, que de catholicité, et voulue dans la mission d'apostolicité aussi. D'accord. Et au XXe siècle, j'ai dit qu'en 1962-65, il y a eu le Concile Vatican II qui a quelque part expliciter le mystère de l'Église. Avant, on parlait plus des autres mystères, la Trinité, le Christ, la création, le péché originel, etc., le sacerdoce, plein de points de la foi. Mais on ne parlait pas assez du mystère de l'Église. On était dans l'Église, mais on n'en réfléchissait pas forcément toujours. À Vatican II, en 1962-65, l'Église a pris du temps pour réfléchir sur ce qu'elle était elle-même et comment se situer par rapport au monde. Comment proposer la foi, comment se situer par rapport au monde. Et donc, je revenais en disant qu'il y a une constitution dans Vatican II, qui est la constitution Lumen Gentium, qui veut dire le Christ, lumière des peuples, Lumen Gentium, qui nous dit quelque chose du mystère de l'Église. Et si nous prenons simplement l'organisation de cette constitution, vous n'irez pas voir, mais je vous le dis simplement, hein, c'est ça l'important, retenez ça. Elle nous donne l'organisation de l'Église. Dans la constitution, nous avons 8 chapitres. Une organisation, j'allais dire, descendante et remontante. Nous avons le premier chapitre qui parle de Dieu qui convoque un peuple. Deuxième chapitre, d'une dimension hiérarchique. Et puis d'une dimension aussi de l'épiscopat. Et puis de la sainteté, et puis de l'apostolat des laïcs, de la sainteté, des religieux, de la dimension, si je me souviens bien, eschatologique, de la fin dernière et de la Vierge Marie. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que les premiers chapitres disent quelque chose de la Trinité. Un chapitre, Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit. Il y a des passages là-dessus, vous verrez. Père, Fils et Saint-Esprit. L'Église est dans le mystère de la Trinité. Et le cœur de l'Église, le chapitre 4, c'est le chapitre de la sainteté. C'est-à-dire tous les membres de l'Église sont appelés à être saints. Le mystère par excellence de l'Église, c'est la sainteté. C'est le lieu où les gens, où le Dieu saint nous a rassemblés pour devenir saints. Soyez saints car je suis saint. C'est au cœur de la constitution de l'Église. Et puis après, nous avons, je vais expliquer pourquoi je disais descendant et remontant, nous avons des chapitres qui parlent des religieux, qui parlent de la dimension de la fin eschatologique de l'Église, c'est-à-dire le retour du Christ, les fins dernières, et puis de la Vierge Marie. Pourquoi ? Parce que l'Église est tournée vers le retour du Christ. Amen, viens Seigneur Jésus. Et que les religieux, en vivant une vie consacrée, se préparent déjà au ciel. Donc ils nous montrent quelque chose de ce qu'on sera au ciel. Et dans notre Église, quelque part, on a des porte-paroles de la vie éternelle qui nous montrent comment on vivra au ciel, c'est-à-dire tout à Dieu, comme des religieux. Les religieux vivent ça ici. Et puis le dernier chapitre, c'est la Vierge Marie. Pourquoi ? Elle a été intégrée, il y a eu beaucoup de discussions, mais la Vierge Marie a été intégrée dans la constitution de l'Église parce qu'elle est la mère de l'Église, dira Paul VI, et qu'elle est le modèle de l'Église. Elle est le modèle de l'Église dans la forme de prière, dans la manière de don total d'elle-même, d'offrande d'elle-même, dans la manière dont elle enfante les enfants à la foi, dans la manière dont elle est devenue l'épouse du Saint-Esprit. Tout cela, Marie, quelque part, montre, et parce qu'elle est immaculée, et que l'Église est appelée à être sainte et immaculée, je disais tout à l'heure. Ça dit quelque chose du mystère de l'Église, vous voyez ? Ça, c'est dans Vatican II, a été vraiment réfléchi ce qu'est le mystère de l'Église. Alors, je voudrais m'arrêter maintenant sur les vocations. Dans l'Église, nous avons différentes vocations. Chaque vocation a la même dignité, a le même appel à la sainteté, mais ne correspond pas aux mêmes choses. Alors, je vais d'abord parler du mariage. Dans le mariage, vous avez quelque chose de la fidélité de Dieu qui s'est donnée à son peuple. Vous pourrez reprendre, vous les mariés, le chapitre 5 de la lettre aux Éphésiens, où il nous est dit que les femmes aiment les maris comme le Christ a aimé l'Église. Or, quand on regarde, par exemple, ce qu'est la célébration du mariage, on donne une alliance. On est d'accord ? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ? Il y a l'alliance entre son peuple, Dieu et son peuple. Donc il y a l'alliance entre Dieu et son troupeau, entre Dieu et son Église. Et que représente le couple ? C'est cette alliance de Dieu avec son troupeau. Et donc la fidélité du couple montre la fidélité de Dieu pour son peuple. En quelque part, dans l'Église, les mariés montrent la fidélité de l'alliance. De le Christ qui a aimé l'Église et qui s'est uni à elle. De Dieu qui a aimé son peuple. Ça, c'est vraiment la dimension prophétique des mariés. Et maintenant, les consacrés. Les consacrés, alors il y a les hommes et les femmes, et ils montrent le fait qu'on est destiné pour le ciel, pour la fin des temps, qu'aucun amour ici-bas n'est suffisant, qu'au ciel, le seul amour qu'on nous aurons, c'est l'amour de Dieu. Ça, les consacrés le montrent par anticipation, puisqu'ils disent, et ils vivent, Dieu seul suffit. Mais je voudrais préciser un petit peu cela. Les femmes et les hommes. Le génie féminin, et Dieu l'a voulu ainsi, c'est que les femmes consacrées sont épouses du Christ. Sont épouses du Christ. Elles, quelque part, elles montrent le mystère nuptial de l'épouse qui aime son époux. Elles sont les porte-paroles de l'Église qui est l'épouse du Christ. Elles le montrent par excellence, les femmes consacrées. Et ce n'est pas tout à fait pareil pour les hommes. Bien sûr, les mystiques nous diront que l'âme est épouse de Dieu. Dieu épouse les âmes. Très bien. Mais il est plus difficile à un homme de consacrer, de se dire « je suis l'époux du Christ ». Eh bien oui, le mystère des épousailles n'est pas tout à fait pareil que le mystère d'une consacrée féminine. Le mystère plutôt de la consécration masculine, je le comprends ainsi, il est plus à l'image de Jean-Baptiste, c'est-à-dire l'ami de l'époux qui est à côté de l'époux, c'est-à-dire un mystère d'amitié complète qui est avec et qui entend l'époux, celui à qui appartient le mystère de l'Église, le Christ et l'Église, et qui en est tout heureux. Donc un mystère d'amitié profond, de communion fraternelle profonde entre le consacré homme et son Créateur. Et pour le prêtre, c'est aussi une facette de l'Église qui est montrée à travers ce qu'il est, c'est-à-dire il est le pasteur, celui qui, comme dit Jean chapitre 10, donne sa vie pour ses brebis, comme le Christ a donné sa vie pour son troupeau. Et donc quelque part, il montre ce don total pour l'amour de l'Église. Et nous voyons cela dans la messe. Dans la messe, le prêtre est face au peuple. Alors, ça c'est dans la forme ordinaire. Mais elle dit quelque chose, cette forme ordinaire de la liturgie eucharistique. Le Christ face au peuple, le prêtre face au peuple, c'est le prêtre époux, le Christ époux, qui est époux de l'Église assemblée. Et on voit cela. Et chez les évêques, c'est très fort, parce qu'ils ont le sacerdoce de manière pleine, le mystère du sacerdoce de manière pleine, ils ont un anneau, parce qu'ils sont l'époux de l'Église, comme le Christ est l'époux de l'Église. Et les pères de l'Église disaient, un évêque qui quitte son diocèse, c'est adultère, pour dire à quel point c'est l'époux de l'Église. Vous voyez ? C'est celui qui se donne pour son peuple, pour l'épouse. Voilà. Donc on voit la beauté des vocations dans l'Église nous disent quelque chose de ce mystère. Et pour nous tous, chrétiens, qu'est-ce que c'est le mystère de l'Église ? Le mystère de l'Église peut être, sur deux points précis, c'est notre famille, parce que nous sommes enfants de Dieu. Et comme nous sommes enfants de Dieu en Jésus-Christ, fils dans le Fils, l'Église est devenue notre famille, notre première famille. L'homme quittera son père et sa mère. Voilà, et puis il y a aussi, il est dit dans l'Écriture, celui qui me suivra recevra frères et sœurs dès ici-bas. Mais c'est exactement ça, c'est notre famille, l'Église. Et cette famille, j'aime bien dire quand des parents font baptiser leur enfant, je leur dis, votre fils, votre fille et votre frère, votre sœur dans la foi. Ça les étonne, mais c'est vrai. Parce que c'est un frère et sœur dans la foi. Et l'Église aussi, c'est le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire le lieu où habite le Saint-Esprit qui nous fait en communion. Et vous voyez, on est dans cette unité. C'est le lieu de notre unité. C'est, j'allais dire, la Jérusalem céleste. Le lieu où Dieu nous a voulu pour que nous nous déployions complètement dans notre humanité. Je terminerai par un dernier point. Nous parlons de l'Église en la définissant comme pérégrinante, souffrante et glorieuse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Toute personne qui est baptisée est dans l'Église. Stricto sensus, après ça relève de son cœur, elle peut refuser l'Église. Quelqu'un qui pêche peut gravement abîmer la communion de l'Église, là, plus ou moins fortement. Par exemple, si je fais un péché grave, je peux me couper du lien de grâce qui m'unit au Christ. Et donc j'affaiblis l'union de l'Église. Et celui qui renforce sa vie avec le Christ renforce l'union de l'Église entière. Le mystère de l'union de l'Église se vit en nous. C'est ce qu'on appelle la communion des saints. Thérèse de Lisieux disait « Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. » Cette femme n'est pas sortie de son Carmel, mais en vivant l'union à Dieu, elle a évangélisé. Elle a fait connaître le Christ partout. Et donc on voit celui qui s'unit au Christ s'unit au mystère de l'Église. C'est tout un, comme dirait Jeanne d'Arc. Jésus et l'Église, c'est tout un. Vous voyez, on ne peut pas séparer l'Église de Jésus. Et ça a des effets. Celui qui aime de plus en plus Jésus aime de plus en plus l'Église. C'est lié. Ou alors c'est incompris, c'est atrophié. C'est une relation qui devient que personnelle, qui n'est jamais universelle. Vous voyez, ça c'est important. Donc ce mystère où l'Église, où de la communion des saints, où nous aimons le Seigneur et qui nous, quelque part, nous fait aimer l'Église et nous donner, nous rendre féconds pour les autres, nous appelons ça la communion des saints. Nous parlons pour les morts, nous la parlons pour les saints. J'ai parlé, je vais revenir, l'Église pérégrinante, souffrante et glorieuse. La communion des saints, c'est deux choses, nous dit l'Église. Je crois en l'Église, à la communion des saints, à la vie éternelle. C'est ça dans le credo. La communion des saints, ce sont tous ceux qui nous ont précédés dans la foi et qui sont au ciel, qui peuvent prier pour nous, être des modèles pour nous, nous enseigner, nous protéger. C'est la communion. Ils nous partagent quelque chose de ce qu'ils connaissent sur le Christ. Mais c'est aussi la communion des choses saintes, c'est-à-dire le partage des choses saintes. Par excellence, c'est le partage du Christ. Quand les chrétiens se donnent l'Eucharistie, reçoivent l'Eucharistie, ils se partagent les choses saintes. Mais aussi, quand les chrétiens se partagent leur sainteté, comment ? Ben un saint peut donner ses mérites à un autre. Nous, des fois, nous sommes sauvés, nous serons sauvés par l'intercession de d'autres saints. C'est la communion des choses saintes qui nous sanctifie. En gros, c'est un mystère de communication, l'Église, d'entraide, de solidarité. Et dans ce cadre-là, nous pouvons, je ne le développe pas, comprendre ce qu'est les indulgences plénières. C'est le mérite des saints qui sont renvoyés sur d'autres pour les sanctifier. Vous voyez, c'est le mystère de la communion. Donc là, on a le mystère de la communion de l'Église, une sainte. Et je termine, et là c'est vraiment terminé, pérégrinante, souffrante et glorieuse. Ici-bas, qui est dans l'Église ? Celui qui est baptisé ou celui qui de cœur veut y adhérer ? Après la limite, vraiment le plus profond, elle est dans le cœur de l'homme. L'homme peut très bien être baptisé et refuser le Christ. À ce moment-là, il se sépare, pas formellement, mais intérieurement, il se sépare du Christ. Voyez ? Et il y a des non-baptisés qui veulent avancer de tout leur cœur vers le Christ. Et quelque part, le Christ les précède. Ils ne sont pas formellement encore dans l'Église, mais le Seigneur déjà leur prépare le chemin. Ils sont attirés vers. Et un catéchumène a droit à des funérailles chrétiennes parce que, quelque part, il fait déjà, par désir, membre de l'Église. Qui est séparé de l'Église ? Ben, en enfer, il n'y a pas d'Église. En enfer, il peut y avoir des démons, des âmes, mais ils se sont séparés de la grâce de Dieu. Donc, stricto sensus, ils ne sont plus dans l'Église. Ici-bas, nous marchons vers la sainteté. Nous sommes ce qu'on appelle en pèlerinage. Nous sommes la dimension de l'Église pérégrinante, en chemin. Au purgatoire, sont nos frères et sœurs qui se sont en train d'être purifiés. Et nous prions à la messe pour eux, parce qu'à la messe, il y a les vivants et les morts. C'est une communion de l'Église en direct, de toute l'Église. Au purgatoire, c'est l'Église souffrante. C'est l'Église qui est sanctifiée, des fois dans la douleur de la purification, mais aussi dans la joie, parce qu'elle a la ferme espérance de recevoir le Seigneur. Et au ciel, les saints, c'est l'Église triomphante. C'est le but. C'est là où l'Église atteint son apogée, la Jérusalem céleste. Vous voyez ? C'est le mystère de l'Église. Je m'arrête là. Je nous invite à reprendre les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, où il nous est dit quelque chose de notre vie chrétienne dans le mystère de l'Église. Bonne messe à chacun.